l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Laura Ciboni, auteure du livre édité chez Grasset, Fantasia, contes et légendes de l'intelligence artificielle. Alors Laura Ciboni, que vous connaissez peut-être, est strasbourgeoise, elle est diplômée de Sciences Po, de la Sorbonne et de HEC, déjà auteure de deux ouvrages, L'école de la parole et Bien parler en public. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est cet ouvrage consacré à l'intelligence artificielle. Laura Ciboni, bonjour.
Bonjour.
Alors l'intelligence artificielle, vaste sujet qui touche toutes les thématiques sociétales. Alors, parle-t-on réellement d'intelligence ou plutôt de compilation de données humaines ?
Ça, c'est une immense question. Le mot d'intelligence artificielle, au départ, c'est un terme marketing qui a été utilisé en 1956 par la conférence de Dartmouth pour obtenir des fonds de la part de la fondation Rockefeller. Donc c'était un terme qui devait faire envie, mais qui à l'époque était de toute façon excessif, puisque à l'époque, ce qu'on appelait intelligence artificielle, c'était la science, le champ de recherche, qui visait à comprendre les facultés humaines en les simulant sur des ordinateurs. Donc à comprendre la faculté de l'homme à organiser des données, à les classifier, à prédire des données, en les simulant sur des machines, sur les premiers ordinateurs qu'on voyait apparaître à l'époque. Donc intelligence artificielle, à l'origine, c'est d'abord un terme marketing qui vise à obtenir des fonds, à séduire des financeurs. Et puis ça a évolué puisque le champ de recherche a mené à des technologies qu'on utilise aujourd'hui au quotidien, en particulier depuis un an avec le succès fantastique d'OpenAI, 100 millions d'utilisateurs en un mois, enfin, c'est gigantesque. Et donc, c'est ce succès-là qui fait qu'aujourd'hui, on parle d'IA dans tous les domaines, on en parle à toutes les sauces. Le mot d'intelligence a donc pris une ampleur qu'il n'avait pas auparavant.
Pour que cette IA soit effective aujourd'hui, il aura fallu pendant une quarantaine d'années, une trentaine d'années, compiler toutes ces données que les gens d'eux-mêmes ont mis aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais avant en postant des articles ou en mettant en ligne des podcasts.
Oui, et ça pour moi c'est un des éléments les plus marquants de l'époque contemporaine, c'est cette explosion de la donnée. Aujourd'hui, on produit en un an plus de données qu'il n'en a été produit entre l'aube de l'humanité et les années 2010. Donc, on produit énormément de données qu'on sait de mieux en mieux stocker. Aujourd'hui, ça se compte en téraoctets, c'est gigantesque. Et ces données, c'est quoi ? Mais c'est tout ce qu'on produit. Ça peut être notre visage, ça peut être des radiographies, ça peut être des historiques de navigation, ça peut être des préférences de films, de livres, de profils sur les réseaux de rencontres. Ça peut être énormément de choses, les données.
Est-ce que tout cela, au fond, se sert des fins commerciales ou pas forcément ? C'est aussi effectivement pour la recherche médicale, pour la compilation de données historiques, artistiques.
Ça, c'est aussi le propre de l'intelligence artificielle, c'est que c'est très ambigu et très versatile. Ça s'adresse à tous les domaines dans lesquels on produit de la donnée. Donc, ça peut servir aussi bien à trouver des potentielles tumeurs sur des radiographies, donc à pouvoir sauver des gens du cancer, qu'à faire des frappes ciblées. Ça peut servir aussi bien à déverrouiller votre portable grâce au système de reconnaissance faciale qu'à donner un score social aux gens en Chine, toujours grâce à ces mêmes technologies de reconnaissance faciale. Donc la même technologie va s'appliquer à différents domaines et peut avoir des buts complètement opposés. Elle peut être utilisée pour le meilleur comme pour le pire.
Elle est amenée à bouger, cette intelligence artificielle, enfin du moins toutes ces données, puisque vous le disiez, chaque jour, elle est nourrie, cette intelligence. Alors, j'ai l'impression qu'on est dans un mauvais film de science-fiction, mais il y a quelque chose de cet ordre-là.
Tout à fait, je pense que l'effet science-fiction vient aussi de ce qu'on est obligé d'anthropologiser l'intelligence artificielle. Lorsqu'on en parle, on dit « elle ». Elle fait, elle comprend,
oui,
elle
vrai.
Analyse, parce qu'on n'a pas, de mot neutre, de genre neutre en français. Et même si on en avait, on a cette tendance à chercher, chercher à rapprocher de l'homme des technologies qui finalement ne sont que des manières d'organiser la donnée. Mais lorsqu'on cherche les logiques sous-jacentes à une base de données, lorsqu'on cherche des régularités, en anglais des patterns dans une base de données, eh bien ça peut aussi permettre de produire, de prédire et donc de générer du texte, des images, comme on le voit sur ChatGPT.
On est tous, quelque part, un élément central de cette intelligence artificielle. Elle a besoin de nous pour se nourrir, on le disait. Donc, même les gens qui ne se servent pas des réseaux sociaux, qui n'ont pas de téléphone portable ou qui ne se servent pas des technologies, dans leur quotidien, sont quand même l'objet de cette IA.
Oui, et ça, c'est peut-être le point le plus important. J'entends souvent l'intelligence artificielle, c'est intéressant en soi, mais ça ne me concerne pas. Aujourd'hui, elle est présente partout, dans tous les domaines où on produit de la donnée, et le plus souvent invisible. L'intelligence artificielle, c'est en ce moment même ce qui sécurise nos comptes bancaires, c'est ce qui nous évite d'être noyés sous les spams, c'est ce qui optimise les recherches Internet, c'est ce qui optimise l'information qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, mais donc aussi l'information qui est mise en ligne par les médias, puisqu'ils cherchent à optimiser évidemment leur contenu pour être le plus viral possible. Donc c'est aujourd'hui, même lorsqu'on n'utilise pas de smartphone, même lorsqu'on n'a pas de profil sur les réseaux sociaux, on utilise déjà l'intelligence artificielle. Et j'irai même plus loin, on est formaté par l'intelligence artificielle puisque l'information qu'on reçoit est en partie formatée par cette IA. L'affaire Cambridge Analytica a bien montré le rôle qu'a joué l'intelligence artificielle dans le profiling, donc dans la capacité à repérer des profils plus influençables, des personnes qui seraient plus à même, plus enclines à s'abstenir dans une élection ou plus à même d'être sensibles à un argument ou à un autre. Et donc, Cambridge Analytica a joué un rôle dans l'élection de Trump aux États-Unis, a joué un rôle dans le Brexit, a été capable de repérer les personnes les plus influençables pour pouvoir leur apporter un contenu qui allait les mener à voter pour tel ou tel parti.
De quelle façon, enfin, vous pouvez imaginer qu'on mette une limite, parce que là, aujourd'hui, c'est sans limite, et tant qu'il y a une communauté humaine, ChatGPT ou d'autres, continueront à grandir, de quelle façon on peut peut-être légiférer ou cadrer pour que les choses ne soient pas exponentielles et ne nous échappent pas à un moment donné?
Et alors, il y a des régulations en cours. L'AI Act a été adopté par le Parlement européen. Il y a d'autres réglementations sur la manière dont on produit et dont on analyse la donnée. L'ennui, c'est que pour qu'une régulation sur l'intelligence artificielle soit efficace, elle devrait être mondiale, parce que la donnée n'a pas de frontières. Elle devrait être mondiale, elle devrait être concertée à l'échelle mondiale. Et elle devrait être appliquée. Or, souvent, dans le domaine technologique, ça, de manière générale, oui, une technologie s'améliore lorsqu'elle est contournée et qu'elle apprend à contourner le contournement. Et donc, je crois qu'une régulation qui serait uniquement politique serait insuffisante et que la meilleure limite à la surexpansion de l'intelligence artificielle et à ses dangers, c'est d'abord d'entraîner à l'esprit critique. Et donc ça veut dire déjà d'être conscient de la place que prend déjà l'intelligence artificielle dans nos vies. Ça veut dire aussi de la tester, d'aller s'y confronter, parce que elle est tellement versatile, elle s'adresse à tellement de domaines que le meilleur moyen de connaître ses propres usages et de la voir finalement, de s'y confronter, c'est de tester soi-même, d'essayer de générer du texte, de comparer une expérience toute simple, de prendre le compte Facebook de quelqu'un d'autre, d'un proche, et de comparer les newsfeeds, de comparer ce qui apparaît sur les pages pour se rendre compte des bulles de filtre dans lesquelles nous sommes déjà enfermés, c'est-à-dire de la manière dont l'information qu'on reçoit est déjà sélectionnée pour les uns ou pour les autres.
Laura Ciboni, vous êtes l'auteur de ce livre, je le disais, Fantasia, contes et légendes de l'intelligence artificielle. Vous aviez déjà écrit précédemment deux ouvrages sur la prise de parole ou autour de la prise de parole. Aujourd'hui, ce sujet que vous avez vulgarisé, j'allais dire presque la volonté de le rendre ludique et surtout accessible au plus grand nombre. Pourquoi ce sujet, vous, particulièrement ?
L'intelligence artificielle, c'est un sujet qui m'a passionnée quand je l'ai découvert. Je l'ai découvert d'abord alors que je faisais une thèse professionnelle sur la recommandation en littérature. Donc ma question, c'était comment est-ce qu'on peut recommander un livre à quelqu'un alors que cette personne ne l'a pas encore lu, que chaque lecteur a des goûts uniques qui lui sont propres, que chaque livre est unique. Et donc, il y avait évidemment des systèmes qui existaient, mais vous voyez bien qu'il y a des biais lorsqu'on demande aux gens « qu'est-ce que vous voudriez lire ?» Ce qu'on veut souvent, c'est être surpris. Ou lorsqu'on leur dit « les gens qui ont acheté tel livre ont aussi acheté tel autre ». Et donc, je m'étais intéressée à une œuvre qui mettait en relation des œuvres visuelles, des tableaux, en fonction de leur similarité visuelle. Et je me demandais, est-ce qu'on peut trouver des similarités entre des livres qui font que lorsqu'on a aimé un livre, on aimera tel autre. Et donc, c'est comme ça que je suis entrée en contact avec Google Art et Culture, une petite équipe au sein de Google qui a numérisé 8 millions d'œuvres et qui les rend accessibles au plus grand nombre, notamment grâce à des expériences d'intelligence artificielle. Et en travaillant à Google Art et Culture, j'ai travaillé avec les Creative Coders, donc des artistes du code, qui mènent des expériences pour, par exemple, trouver le lien entre un selfie, donc entre votre visage, et les collections de portraits qui ont été numérisées. Et donc, c'est en découvrant l'IA par la pratique, à partir d'une base de données très visuelle, très immersive et magnifique. C'est 8 millions de chefs-d'œuvre qui ont été numérisés auprès des plus grands musées du monde. Et donc, c'est en découvrant l'IA par la pratique, en découvrant ses enjeux aussi, que je me suis rendu compte que ce n'était pas une technologie comme les autres. C'est-à-dire, il y a plein de technologies qui sont passionnantes. On parle beaucoup en ce moment de blockchain, de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Mais ce qu'il y a de propre à l'intelligence artificielle, c'est qu'elle nous force à redéfinir ce qu'est l'homme à l'heure où on peut générer du texte qui nous fait ressentir des émotions. Ce qu'est le travail à l'heure où on peut automatiser la majeure partie des tâches. Et donc, elle nous force à nous reposer toutes ces vieilles questions sur finalement quel est le propre de l'homme, qu'est-ce que c'est que mener une vie humaine. Et elle va pour ça chercher très profondément sur ce qu'on est à partir des données qu'on produit.
Vous avez trouvé, vous, des réponses justement à ces questions. Alors, vous disiez 8 millions d'œuvres hein, répertoriées, c'est un grand inventaire. Aujourd'hui, quel est le lien avec la nature humaine et la façon dont on pourrait nous en servir? Comment ça pourrait être mis, on va dire, au service de l'humain via l'intelligence artificielle?
Je pense que ce serait trop rapide d'oublier déjà toutes les questions que pose l'intelligence artificielle et qu'on oubliait souvent de se poser parce qu'elle nous semblait trop évidente. Et je prends un exemple sur les 8 millions d'œuvres qui ont été numérisées. Il y a environ 400 000 portraits qui, pour la plupart, étaient complètement oubliés, des portraits de marchands flamands du XVIe siècle. Et donc, lorsqu'on a fait cette simple expérience d'intelligence artificielle qui consiste à chercher les similarités entre un selfie et une œuvre, on s'est rendu compte que les personnes de couleur avaient des matchs moins pertinents, avaient des recommandations d'œuvres qui leur ressemblaient moins. Et en fait, ça vient d'une chose qu'on avait sous les yeux, mais qu'on n'avait pas vue, qui est que le portrait est un art très occidental, que les portraits suivent un pattern, suivent une logique qui est finalement très formelle, toujours une tache pâle au milieu d'un rectangle plutôt sombre, avec enfin, des formes très reconnaissables, que la numérisation, donc le fait de conserver les œuvres dans des musées, c'est aussi une tradition occidentale, que tout ça, c'était des biais qu'on avait sous les yeux, dont on se rendait peu compte, et que l'IA a permis de mettre en lumière. Et donc, ça soulevait des grands enjeux de l'humanité, qu'on aurait pu voir autrement, mais en leur donnant une autre ampleur et une autre acuité.
Alors, on va revenir à vous, votre motivation, l'envie d'écrire un livre autour de l'intelligence artificielle. Vous abordez plein de thèmes, plein de sujets, comme là, aujourd'hui, quand on en parle, très étayé. Vous aviez-vous envie de rendre ce livre accessible à tout le monde? Parce que, on le disait en début d'interview, ça touche tout le monde.
Oui, alors il y a beaucoup de raisons à ça. Je pense que la première, c'est aujourd'hui les dangers de l'intelligence artificielle. Évidemment, on ne va pas voir un complotiste en lui disant vous êtes complotiste. Je pense que le biais de la fiction aide à mieux se rendre compte des dangers, d'à quel point on est déjà formaté par l'intelligence artificielle. Lorsque Molière écrivait le Tartuffe, il n'allait pas voir les gens en disant vous êtes hypocrite, il leur montrait un exemple, il leur montrait à travers la fiction, à travers les histoires, le rôle que jouait déjà, alors en l'occurrence, la bigoterie de la société. Et moi, c'est aussi par le biais de la fiction que j'ai voulu montrer l'influence qu'avait déjà l'intelligence artificielle dans nos vies, dans nos quotidiens, même lorsqu'on pense que ça ne nous concerne pas.
Votre livre, aujourd'hui, vous faites le tour des salons du livre, des bibliothèques également. Alors, pour rappel, vous serez ici au Consistoire israélite du Bas-Rhin le 11 avril, au Bodeur des livres à Strasbourg également le 27 mars. Vous rencontrez vos lecteurs ou les personnes intéressées par le sujet. Vous avez-vous un profil type, justement, de vos lecteurs ?
Pas du tout, et ça j'en suis ravie. Là je reviens de Belgique par exemple, où alors, déjà j'ai été assez surprise parce que en France, lorsqu'on va à une séance de dédicace, on achète le livre, on le fait dédicacer. En Belgique, la plupart des gens avaient déjà lu le livre avant la dédicace, donc les questions étaient aussi plus pertinentes, plus informées forcément, et donc ça a mené à des discussions vraiment passionnantes, et ça m'a permis de voir de rencontrer des lecteurs, notamment des data scientists, donc des spécialistes de l'intelligence artificielle, des programmeurs, qui avaient lu le livre tout autant que des... il y avait beaucoup de retraités à Soigny qui étaient venus, qui avaient pris le temps de lire le livre. Et donc, c'était pour moi le plus important de pouvoir s'adresser à tous, que ce soit un livre qui aide aussi bien les spécialistes de l'intelligence artificielle, du marketing digital à illustrer ce qu'ils font, et à mesurer aussi les enjeux qui sont liés à l'intelligence artificielle, à voir à travers des dialogues quel pourrait être son avenir. Évidemment, je ne donne jamais d'opinion dessus, je ne lis pas le futur, mais le genre du dialogue ou de la fable me permet d'esquisser les voies. Ou de voir avec le grand public aussi, avec des gens dans tous les domaines. Il y a quelquefois des médecins qui viennent me parler du rôle de l'IA dans l'imagerie médicale. Ça m'est arrivé d'en parler à des gens dans le domaine militaire, dans énormément de secteurs différents. Et ça, c'est ce qu'il y a de fascinant dans l'IA.
Pour vous, ce sujet d'étude encore aujourd'hui, alors vous l'enseignez également à vos élèves, vous êtes professeur à Sciences Po, c'est ça ?
À Sciences Po, à HEC, à l'Université de Strasbourg.
Et vous, ce sont des cours que vous donnez, vous, sur l'intelligence artificielle en particulier, ou c'est quelque chose de plus global ?
Oui, alors ça a pris beaucoup de forme. J'ai commencé à enseigner à HEC en 2018. Oui. Donc l'état de l'art de l'intelligence artificielle, surtout auprès du grand public, n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. À l'époque, je m'intéressais au rôle que pouvait jouer l'intelligence artificielle dans le monde de la culture, donc en termes de médiation, en termes de connaissance du public et de génération, notamment dans le domaine musical. Et puis ça a évolué parce qu'il est devenu de plus en plus important de parler des enjeux qui sont liés à la donnée et qui sont liés à l'intelligence artificielle, aussi bien en termes de propriété intellectuelle des contenus sur lesquels est entraînée l'intelligence artificielle, qu'en termes de sécurité, de confidentialité, qui ne sont pas les sujets les plus glamour, mais dont on parle mieux lorsqu'on part de bases de données très visuelles ou musicales, de parler des enjeux qui sont liés à la désinformation, qui sont liés à la valeur des données, ces données qu'on produit sur les réseaux sociaux, qu'on donne gratuitement, qu'on produit lorsqu'on utilise Google Maps, lorsqu'on utilise Facebook. Et donc énormément d'enjeux qui sont liés à la donnée, que je voulais aussi souligner, qui ont pris de plus en plus de place dans le cours, au-delà des questions techniques et des illustrations sur les concepts de l'IA, qui eux sont de mieux en mieux maîtrisés par les étudiants. Et puis récemment, je donne aussi des cours et des formations en entreprise qui vont être plus opérationnelles, C'est-à-dire plus comment utiliser l'intelligence artificielle pour des gens qui en maîtrisent les principaux concepts et enjeux. Et souvent, ça va passer par des études de cas.
C'est forcément non exhaustif aujourd'hui, cet enseignement. Vous êtes-vous aussi obligé d'être tout le temps dans à la pointe aujourd'hui de l'évolution de la révolution de l'IA pour notre avenir?
Oui, ça avance à un rythme vertigineux. Et il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un nouveau papier qui révolutionne le domaine, sans qu'il y ait un nouveau papier qui prétende avoir atteint l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui serait consciente d'elle-même. C'est vertigineux. Oui, ça demande beaucoup de veille. C'est en même temps une veille qui est extrêmement stimulante à faire. On voit constamment de nouveaux champs d'application de l'intelligence artificielle, de nouveaux succès de la technologie. Et là, je parle vraiment non pas du champ de recherche, mais de la technologie et de ses usages. Oui, il y a beaucoup de veille. C'est passionnant. On voit que les étudiants aussi sont de plus en plus informés sur le sujet, conscients des enjeux, donc de tous les dangers, de toutes les limites qui vont avec l'intelligence artificielle, mais aussi de ses promesses, de ce qu'elle peut changer et puis des domaines qui résistent, parce que finalement tous les domaines se limitent peut-être pas à de la donnée. Pour reprendre l'exemple qui m'a mené à m'intéresser au sujet, la recommandation littéraire, eh bien ça reste difficile de recommander un livre. Recommander un texte, c'est facile. Ça, si vous voulez trouver une recette de cuisine à partir des 5 ingrédients qu'il y a dans votre frigo, ça le trouvera sans problème. Par contre, pour ce qui est de recommander un livre dont on ne connaît pas bien toutes les dimensions, qu'est-ce qui fait qu'on s'attache à un livre? Est-ce que c'est les personnages, le décor? Est-ce que c'est une atmosphère? Et dans ce cas, comment la mesurer? Donc tout ce qu'on ne sait pas vraiment mesurer, c'est plus difficile. Un exemple qu'on voit régulièrement, c'est les réseaux de rencontres. L'intelligence artificielle sait très bien mettre en relation des profils. Mais est-ce qu'on se résume à un profil?
Non, donc ça ne pourra pas remplacer et l'intuition et l'inné de l'humain et ce qui fait de chacun l'humain, que ce soit les sentiments, son cadre de naissance, etc. J'imagine que ça ne pourra pas être rempli, ou l'intuition tout simplement.
Peut-être que ça le pourra si on arrive un jour à mesurer, et s'il est possible de mesurer les sentiments. On peut imaginer que les sentiments se mesurent en termes hormonaux. On peut l'imaginer. Après, là, ça reste des appréciations. Et c'est pour ça que c'est des questions que j'ai abordées sous la forme plutôt du dialogue ou de la fiction. Jamais de la science-fiction dans Fantasia, beaucoup plus des micro-récits. Parce que c'est des questions auxquelles on n'a pas la réponse. Mais qui nous force à reposer ces vieilles questions. Est-ce qu'il y a une âme? Est-ce qu'il y a des sentiments? Quelle est la différence entre créer et générer? Parce que ChatGPT peut générer des textes entiers, mais est-ce que ça peut vraiment créer, c'est-à-dire apporter quelque chose de neuf et qui a de la valeur dans le monde?
Et le facteur hasard également dans la vie, et que ce soit des rencontres ou de tomber sur un film, un livre, une musique par laquelle on va être séduite et qui ne fait pas partie d'un algorithme qu'on va vous proposer, c'est également intéressant. C'est quelque chose que l'intelligence artificielle aujourd'hui ne peut pas encore nous proposer. On reste libre de ses choix et on peut être également, on va dire, soumis à ce hasard de la vie qui fait d'ailleurs un petit peu le sel de la vie, c'est ça?
Tout à fait, et qui questionne l'éducation. Puisque pour des générations qui sont nées avec l'intelligence artificielle et avec les recommandations automatisées à partir des préférences, les recommandations qu'on voit sur Netflix, sur Spotify, sur Deezer, pour ces générations-là, c'est de plus en plus difficile de découvrir de nouveaux contenus avec lesquels qui n'auront pas été précédemment sélectionnés pour eux. Et bien sûr que la sélection, la curation de contenu, ça existait avant l'intelligence artificielle. Tout comme les fausses informations, tout comme tous les enjeux dont on parle depuis tout à l'heure, ça existait avant l'intelligence artificielle. Mais l'IA leur donne une ampleur qui jusque-là était inconnue. Et donc pour des jeunes qui ont aujourd'hui 10 ans, 15 ans, qui sont en train de construire leur culture cinématographique, leur culture musicale et autres. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'aller chercher cette sérendipité, d'aller chercher ce hasard, de chercher un contenu qui va peut-être leur déplaire, mais c'est en se confrontant à du contenu qui déplaît qu'on connaît aussi mieux ses choix, en sachant ce qu'on n'aime pas, qu'on sait d'autant mieux ce qu'on aime.
Laura Ciboni, merci infiniment d'être passée nous voir. Je rappelle, vous êtes l'auteur du livre édité chez Grasset, Fantasia, il était une fois l'intelligence artificielle, contes et légendes de l'intelligence artificielle. On aura le bonheur de pouvoir vous rencontrer justement à la librairie au bonheur des livres. Ce sera le 27 mars et le 11 avril au consistoire israélite du Bas-Rhin. Merci à vous d'être passée nous voir.
Merci beaucoup.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.